Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Comment ça va ?
Eh bien, sous l'action du Saint-Esprit, tout va bien.
Très bien. Alors, tu es prêt à continuer notre lecture du catéchisme de l'Église catholique ?
Oui, nous en sommes arrivés donc aux environs du 685.
Voilà. Alors, le catéchisme rappelle que l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils, nous en avons parlé la dernière fois, mais il précise que dans cette partie-là du catéchisme, il va s'intéresser particulièrement à l'économie divine. Cette expression est curieuse, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que cette économie divine ?
Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de l'économie comme le ministre des Finances d'un pays aurait à s'occuper des gros sous. Hein. L'économie, oikonomia, est un mot donc qui signifie donc le monde habité. L'oikos, c'est le monde habité, comme le mot oikia, qui en grec signifie la maison. Donc, nomos, c'est la loi. Donc la règle de la maison habitée par les hommes, sous-entendu, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de la maison du ciel, on l'appelle plutôt la cité céleste, hein. C'est plutôt la Jérusalem céleste. On ne lui donnera pas trop le nom de oikia, même si la paroisse, c'est un peu, dans le fond, le passage de cette maison d'ici-bas à la maison de l'au-delà. Hein. On retrouve un peu la même racine. Et donc cette économie est pour caractériser l'action de Dieu ici-bas dans le plan d'amour bienveillant qu'il a eu en créant l'homme à son image et ressemblance et en le sauvant de son péché. Le péché des origines par Adam et Ève et ce plan d'amour où Dieu a envoyé bien, successivement des alliances, des prophètes et finalement son propre fils Jésus-Christ, pour nous sauver. C'est cela qui est toute l'économie. Donc c'est tout la révélation, dans le fond, quand j'ai la Bible en main, je peux dire que c'est la véritable économie. Et donc d'où l'intérêt pour nos hommes politiques de la lire souvent, parce qu'ils font de la véritable économie plutôt qu'une économie qui serait seulement utilitariste. On s'élève vers les pensées de Dieu, et tout change lorsque on prend de la hauteur et que on dirige les hommes selon les vœux de Dieu et non pas les désirs des courants mondains qui veulent imposer leur propre loi. Il y a une loi céleste et nous essayons d'en vivre. C'est ça la véritable économie. Et on comprend très bien que ce mot donc est important pour la réflexion puisque il y a d'une part ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, et à ce moment-là, on peut parler d'une théologie immanente, voire le mot théologie tout seul, les Grecs préfèrent même dire la théologie, c'est le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous trois consubstantiels en un seul Dieu. Ils parlent de la théologie. Et pour ce qui est, par contre, de l'activité de Dieu à l'extérieur de la Trinité, ad extra, comme on dira, à l'extérieur, dans un mouvement commun des trois personnes qui créent et qui recréent par la grâce l'homme tombé, eh bien, on parlera d'économie divine. Donc, il s'agit vraiment de quelque chose qui nous touche comme des personnes seraient sensibles à leur portefeuille en disant où est-ce que je l'ai mis, combien il reste dedans. Et nous, c'est que l'enjeu est beaucoup plus grand, puisque est-ce que je vais être sauvé ou est-ce que je vais être perdu, si vous voulez. Donc l'économie, c'est pas rien, c'est vraiment l'enjeu de se dire est-ce que je vais saisir les deux mains du Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme disait saint Irénée, pour être entraîné vers le ciel où je vais m'effondrer dans les bas-fonds de la négation de Dieu et de son amour.
Alors voilà, tu parles des deux mains. Alors on sait que une des mains, c'est le Verbe, et comment il s'est incarné, c'est Jésus. Et comment l'Esprit Saint est-il intervenu dans cette économie divine ? Est-ce qu'il a une place aussi importante que celle du Verbe ?
Alors oui, il a une place tout à fait importante, puisque d'abord il a parlé par les prophètes. Et nous le disons dans le credo, hein, je crois au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Par le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et donc il y a une continuité dans ce plan de Dieu. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis les origines de la révélation. Et c'est lui aussi à qui on approprie le fait d'avoir donné à Jésus son humanité, puisqu'on dit que la Vierge Marie a conçu du Saint-Esprit Jésus, et elle conçut du Saint-Esprit. Et donc on approprie au Saint-Esprit une fonction spéciale donc, dans l'humanité de Jésus. Et Jésus marche après sous le souffle du Saint-Esprit. Il suffit de se souvenir de Jésus qui part au désert, on dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, on sent bien, a un rôle tout à fait révélateur et déterminant dans tout le Nouveau Testament. Hein. Croire en l'Esprit Saint, c'est donc professer que l'Esprit Saint est l'une des personnes de la Sainte Trinité. Et on peut dire que le Saint-Esprit, donc, fait partie de la théologie trinitaire, mais nous nous attachons, donc, dans tous les numéros que nous étudions actuellement, à l'Esprit-Saint dans le mouvement qui part du même amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit vers les hommes pour nous faire remonter, dans le fond, à notre origine, de là où nous sommes créés pour... être recréé, remonté dans le fond à la Trinité même, puisque nous sommes appelés à la divinisation, comme disaient les pères de l'Église, à être déifié. C'est quand même un projet extraordinaire, ce retour en Dieu vers la maison du Père.
Au 687, donc on dit bien, il a parlé par les prophètes, et tu l'as rappelé, il en est question dans le credo, mais il est précisé que lui-même, l'Esprit Saint, on ne l'entend pas. Et pourquoi il ne prend pas lui-même la parole et pourquoi il reste si discret, semble-t-il, dans l'économie divine?
Alors, il faut bien sûr préciser ce que le catéchisme veut dire quand il nous dit « Son esprit qui révèle donc Dieu nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même ». Effectivement, c'est le Père qui parle. Et le Père est en quelque sorte celui qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit qu'une seule parole, c'est son Fils. Il n'y a qu'une parole qui est donnée, c'est celle de son Fils. Le Fils, c'est celui qui est dit. Mais quand le Père parle et qu'il dit le Fils, eh bien, cela se passe en présence et sous le mouvement, sous l'onction, dans l'amour du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est évidemment présent au Père qui parle et au Fils qui est en quelque sorte parlé, hein, qui est le Père est le locuteur, le Fils est celui qui est dit à proprement parler. Et donc nous avons une révélation, hein, et le texte nous dit bien, nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi.
Ah, très bien.
Donc voilà la réponse, dans le fond. Le Saint-Esprit vient nous attirer en quelque sorte pour aller vers le Verbe. Il nous donne une sorte de délectation, comme une consolation intérieure, pour aller vers le Verbe et vers le mystère de l'amour, vers le mystère de Dieu qui se révèle. Et comme toujours, eh bien, l'amour est discret. Déjà, Platon disait que l'amour était pauvre, mais c'était tout simplement qu'il ne connaissait pas encore la révélation. Mais il y a quelque chose d'un peu vrai, c'est-à-dire l'amour, c'est un mouvement vers une fin aimée. Et donc, tant qu'on est en mouvement et qu'on n'a pas atteint la fin aimée, on a l'impression que ça reste très pauvre et très discret. Et le Saint-Esprit est un peu de cet ordre-là, puisque il nous immédiatise avec le Fils, il nous met en présence du Fils pour que nous adhérions à lui, que nous ayons foi en lui et que nous soyons introduits dans son corps qui est l'Église. Et de ce point de vue-là, nous devenons concorporels, consanguins au Christ, nous appartenons au Christ par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, se découvre dans un mouvement. Mmh. Et ce mouvement, bien sûr, nous n'avons pas à faire d'une sorte de, d'introspection, de réflexion qui ferait qu'on finirait par abîmer le mystère. Le mystère est donné dans le terme, c'est-à-dire que nous adhérons à Jésus-Christ.
Pour rebondir à cette idée du mouvement, je repense au parfum de la rose. Souvent, on parle de la Trinité en disant la tige de la rose, c'est le Père, la rose elle-même, c'est le Fils, et le parfum en est l'image de l'Esprit. Et le parfum est un peu le mouvement de la rose, et le parfum nous conduit à la rose.
Et voilà, il reste invisible. C'est une excellente image, hein, effectivement. Le Père est toujours source de tout. Il est la source de la Trinité, la pégée de la Trinité, et c'est lui qui, de qui procède le Fils comme engendré, et le Saint-Esprit comme celui qui procède du Père. Et donc, il y a quelque chose de très beau dans cette image du rosier avec la rose et la senteur, et comme c'est doux de sentir au printemps les roses avec leur senteur si magnifique et qui nous embaume et qui nous donne un petit goût de paradis. Un grand merci.
Merci, frère Edouard.